Marc-Antoine Desjardins est avocat spécialiste du droit social. Il s'est consacré aux causes de victimes d'accidents de la route qui poursuivent la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est une personne qui est très engagée et déterminée. Il est maintenant donc le président du RPM, Ralliement pour Montréal. Bonjour, Monsieur Desjardins.
Madame Stanké, bonjour. Merci pour la belle occasion.
Ça fait grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui comme premier candidat à la mairie de Montréal. Vous avez aussi été dans les jeunes politiciens avant de...
Oui, oui, effectivement. Quand j'étais à Grasset, justement, des amis de l'école m'ont offert l'occasion de venir faire le jeune conseil municipal de Montréal en 94. Donc là, on monte à l'ère Bourque, sauf erreur. Oui, c'était le fun, c'était impressionnant, puis c'était tout à fait, c'était une belle expérience pour un jeune ado là, tu sais, qui est interpellé par la politique, tu sais. Fait que ça m'a donné une première idée de qu'est-ce que ça pourrait être.
Alors, 2017,
oui.
On vient vous chercher ou vous...
Non. En 2017, je voulais me présenter indépendant sur le plateau. Moi, je réside dans le plateau Mont-Royal depuis 2011. Et je voulais me présenter indépendant pour encore une fois donner un autre son de cloche. La démocratie, c'est la diversité, ce n'est pas juste une diversité de genre, de couleur, de peau, de bon, peu importe, là, de... La fluidité des genres, c'est aussi les opinions, ce qu'on a dans le coco. Et parfois, je trouve que ça c'est un peu soviétique, hein, ça s'en va tout dans le même sens, et ça, je n'aime pas ça. Peu importe que ce soit des idées de centre, de gauche ou de droite, ça prend de la diversité dans le portrait politique, et j'inclus Montréal aussi. Alors, c'est pour ça que je trouvais qu'on avait besoin d'un autre son de cloche progressiste, pragmatique, comme on dit, c'est ma couleur, c'est moi. Et je trouve qu'on doit justement permettre... Tout le monde ne pense pas pareil, Mme Stanké, OK? Puis c'est pas parce que vous aimez planter des arbres que nécessairement vous comprenez la réalité des automobilistes qui sont pris dans le trafic et qui causent des gaz à effet de serre. La baguette magique, elle n'existe pas, OK? Et on doit répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Et c'est ça que je trouve parfois qui manque dans la perspective de nos politiciennes et politiciens actuels à Montréal ou nos élus municipaux. La variété, ça fait du bien. Si vous mangez juste du spaghetti, vous allez être malade à un moment donné. Hein? Alors, c'est bon de varier à tous les niveaux et d'avoir un son de cloche différent.
Alors là, vous passez tout de même, c'est une défaite électorale, c'est toujours difficile. Ouais. Ça fait toujours très mal pendant assez longtemps, on se retrouve tout seul. Vous remettez ça. Vous remettez ça, cette fois-ci, dans l'équipe CODER.
Oui, en 2017, effectivement, Coderre, l'équipe se crée, j'adhère à l'équipe du plateau et je rencontre Linda Gauthier à cette époque-là. Mais je pense qu'Ensemble Montréal, ça ne savait pas qu'il y avait une campagne électorale qui commençait en 2017 parce que c'était catastrophique au niveau à mon sens, c'était pas. Bref, ça a été une expérience très, très formatrice, si on peut dire. Par après, en 2019, j'ai quitté l'histoire de 35 jours. Je suis allé avec un vrai changement à Montréal pour me présenter à la mairie dans la partielle ici.
On vous revient en arrière. Ouais. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans l'équipe CODER, dans l'organisation de M. CODER?
Actuellement, je pense que c'est, à mon avis, le vieux style de politique qui ne répond pas aux besoins de la population actuelle.
Mais à l'époque, vous mettez les couleurs de cette équipe?
Non, à l'époque, c'était intéressant parce que, je ne me retrouve pas dans l'ADN de Projet Montréal, même si je suis un gars pour qui l'environnement me tient énormément à cœur. Mais il y a beaucoup de contradictions aussi dans Projet Montréal. Parler du Technoparc Montréal, il y a une espèce de double discours. On parle et on a comme une patate chaude dans la bouche. Là. C'est quelque chose qui ne sonne pas, clair là-dedans. Non, l'équipe CODER, moi, j'étais fier quand même des trois premières années de Denis CODER. Là, c'est un maire de transition qu'on avait besoin, partant du Moyen-Âge qu'on a vécu avec l'ère Tremblay, puis la commission Charbonneau, tout ça. J'avais une honte de dire que j'étais Montréalais en 2017. En 2013, il y a un maire qui est sorti avec les menottes dans le dos en 2013. Excusez-moi, en 2013, j'avais honte de dire que j'étais Montréalais, mais en 2017, j'étais fier de dire que j'étais Montréalais, même si c'était pas parfait le mandat la dernière année de Denis CODER, puis lui-même l'a dit. Mais là, la question qu'on doit se poser, c'est, il y a des gens qui sont pas très nostalgiques de Denis CODER et qui sont pas tout à fait satisfaits de Valérie Plante. Alors, nous, on veut passer exactement dans le milieu, on va aller chercher ces gens-là. On n'est pas des dogmatiques, on n'est pas des extrémistes. ce discours-là, on va le laisser aux autres. Ceux qui veulent rendre Montréal une ville bilingue avec un référendum, ça, c'est pas notre tasse de thé. C'est écrit dans la loi, notre caractère.
Qu'est-ce que vous allez faire pour le français? Parce que le français meurt.
Dieu.
Et le français, c'est beau de faire des promesses juste avant les élections, mais je veux dire, c'est le bonjour aïe, le discours pendant les conférences de presse en bilingue, alors que le Québec, c'est français.
Ben absolument. Ben, c'est notre premier thème du programme. Okay, tout ça est interconnecté, mais la valeur de la langue française, c'est une condition sine qua non, c'est incontournable et ce n'est pas discutable. Amener Montréal avec un caractère bilingue, je pense que c'est une erreur stratégique. Ça discrédite les porteurs de ce discours-là. Mais encore une fois, je crois en la démocratie. Alors, vous pouvez amener toutes les idées que vous voulez, aussi farfelues qu'elles soient, mais c'est certain qu'ils ne vont pas me trouver dans leur équipe.
La ville de Montréal a l'air plutôt de Beyrouth pendant la guerre. Je dis pendant la guerre parce qu'après ça, ça a été très bien et c'était magnifique. Des cônes partout. Je veux dire, c'est vraiment une course à obstacles. Vous allez faire quoi pour ça?
C'est l'éternel recommencement, Montréal. On a l'impression de ne jamais être capable de mettre le doigt sur le bobo. Premièrement, il faut avoir une politique de prestation de services élargie. Les services de proximité et les services où est-ce que non nécessairement directement connectés aux citoyens. On doit revoir nos façons de faire. On doit faire un exercice de reddition de compte à la Ville de Montréal. On doit savoir qu'est-ce qu'on dépense, où est-ce qu'on le dépense, est-ce que c'est efficace, est-ce qu'on peut faire des gains en efficacité. On va mettre à contribution la vérificatrice générale de Montréal parce que c'est la seule fonctionnaire qui ne tombe pas sous le droit de regard du maire de Montréal. On doit amener, je peux pas vous faire une annonce tout de suite, mais on a une annonce qui va être très forte au niveau de la gestion de Montréal. On va amener ça prochainement. Et attachez vos trucs, là, il va vanter. Ni Coderre, ni Plante n'ont jamais daigné offrir cette option-là aux citoyens. Et on va le faire, on va le dire.
16 stations seulement de métro sont accessibles à Montréal pour les personnes en mobilité réduite. Votre programme pour ces personnes-là, très court, quelques phrases là-dessus.
PAMU, plan d'action pour la mobilité universelle. C'est dans notre programme. On va mettre ça en place en concertant et en consultant tous les acteurs du domaine, que ce soit les associations québécoises des personnes de petite taille, la FADOC, et tous ceux et celles qui ont des enjeux de mobilité, que ce soit les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap, je le sais, je les défends. Alors, tout ce monde-là a droit au chapitre. On va arrêter de gérer une ville en tenant les populations en otage du fait qu'on n'a pas la même idéologie que les autres. Les laisser pour compte, c'est terminé. Et je peux juste vous dire qu'on va faire un Montréal inclusif. Montréal, ce n'est pas Molière rencontre Shakespeare, c'est Molière qui reçoit Shakespeare. Il y a une nuance que beaucoup ne comprennent pas. Ça va être pour notre identité. Et on va créer des programmes de mentorat interculturel pour intégrer les nouveaux Montréalais, les néo-Montréalais, l'immigration montréalaise. Être Montréalais, c'est un choix. On choisit de venir vivre ici. Et Montréal n'est pas Toronto. Il y a un contrat social. On doit embrasser la belle francité qui fait de Montréal et du Québec une société distincte, justement. Et ça passe par la maîtrise du français. Mais ça n'enlève pas la responsabilité aux instances de, justement, intégrer les gens. Si on n'intègre pas, puis on fait juste faire du beau papier dans la tête, puis on dit « Ah oui, Montréal, on intègre... » Non, c'est pas vrai. On ne livre pas la marchandise comme on devrait le faire. On ne revient pas aux missions de base. Notre ville est sale, notre ville est mal gérée. Ça fait depuis l'air Tremblay que j'entends ça. Rappelez-vous, le frère du maire Tremblay disait sur les trottoirs qui étaient glacés en 2007, ouais, « Mettez vos crampons. » Écoutez, là...
Ça, c'est une vraie farce.
Ça, c'est...
C'est la farce qui va lui rester probablement toute sa vie.
Mettez vos crampons.
Bon,
c'est
ça.
Je pense qu'il y avait une crampe au cerveau.
Terminant les transports en commun, on est dans le palmarès des plus hauts dans les pays qui chargent le plus au niveau de l'autobus et le métro. Est-ce que vous avez fait quelque chose là-dessus?
Dans la période post-pandémique, je pense qu'on doit justement, avec la RTM, faire une révision complète des besoins parce que souvent, comme je vais faire du vélo sur le boulevard Gouin, je pense que c'est la 183 à cet endroit-là, elle est vide. Et beaucoup d'autobus, je pense que la STM, au sortir de du déconfinement, disait qu'il y avait un achalandage d'environ 35 %. Ça, c'est des autobus à l'heure qui se doivent être en haut de 100 $ l'heure qui roulent. Faut revoir les besoins. Si il y a des déficits actuellement, donc on doit revoir les besoins de la desserte, mieux desservir la population des arrondissements. Regardez, l'autobus vient de passer. Il est complètement vide. Il est 9h30. L'autobus est vide.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut avoir des autobus de plus petit calibre? On veut des trambus électriques. Est-ce qu'on peut revoir la desserte à Sherbrooke quand j'étudiais avec des autobus plus petits, justement, pour répondre aux besoins concrets? La gratuité pour les gens 65 ans et plus, on y croit. Mais pour ça, faut regarder les livres, Mme Stanké. Faut arrêter de pelleter par en avant puis se mettre des belles lunettes roses. Il faut se mettre les mains dans la pâte et il faut carrément faire un exercice de reddition de compte total.
Est-ce qu'il faut redonner une fierté à la ville de Montréal?
Ah, tellement. Montréal, écoutez, le 1642, 17 000. Réinvitez-moi, Mme Stanké. C'est pas juste de me donner une demi-heure. Faut parler de Montréal, mais oui. Et la fierté va commencer en arrêtant de se diviser et de se braquer les uns contre les autres.
Merci beaucoup. Et bonne chance pour les élections, Marc-Antoine Desjardins, puis on va vous réinviter.
Merci, Mme Stanké, au plaisir.